Chapitre 15. Les deux côtés d'une question. Edgar avait eu l'intention d'aller chez Mistress Denham pour lui demander les éclaircissements relatifs à Mistress Arbery, mais il se sentit attiré par un charme irrésistible vers le docteur Marchmont, auquel il avait promis de ne faire aucune démarche avant d'avoir eu avec lui une conversation. Il se rendit donc aussitôt chez le recteur, le trouva dans son cabinet, et lui serrant la main avec beaucoup de vivacité, « Mon honorable ami, dit-il, vous me voyez aujourd'hui décidé et libre de tout le pénible embarras que donne l'irrésolution. Décidé d'après des motifs que vous ne pouvez qu'approuver, j'en suis sûr, quoique ma résolution ait devancé vos conseils. Je viens enfin vous avouer, mon cher docteur, mon respectable ami, qu'hier vous avez deviné parfaitement juste quelle était la situation de mon âme, et qu'aujourd'hui je n'attends de vous que des félicitations sur le choix que j'ai fait, choix bien médité, bien ferme, bien irrévocable. » Le docteur l'embrassa de nouveau. « Puissiez-vous donc, mon jeune ami, dit-il, être aussi heureux que vous le méritez ?»« Hier soir, continua Edgar, toutes mes incertitudes ont cessé. Si douce, si sensible, si touchante, non, jamais elle ne m'avait aussi vivement intéressée. Vous en avez été témoin, mon cher docteur, vous l'avez vu avec ce petit marmot dans les bras. Quel spectacle, quelle scène !» Le docteur donna un signe d'assentiment, mais sans parler. Cependant, si la scène d'hier m'a vivement touché, ce matin j'ai dû l'être encore bien davantage. Elle était sur le point, mon ami, de faire une visite qu'elle avait fort à cœur, d'aller chez une dame pour qui elle a conçu beaucoup d'admiration. Je l'ai priée de différer et même d'abandonner peut-être entièrement ce projet. Elle avait obtenu la permission de Sir Hugh, la voiture était à la porte, tant de douceur avec tant de vivacité. Croiriez-vous, pourriez-vous croire, docteur, qu'elle s'est rendue à ma demande, mais avec une grâce, une facilité, qui, je l'avoue, m'ont pénétré jusqu'au fond du cœur. Le docteur sourit, mais d'un air plutôt pensif que joyeux, et son élève, ne recevant point de réponse, se promena pendant quelques instants d'un bout de la chambre à l'autre, jouissant en silence de ses propres pensées. Revenant ensuite au docteur, qui se taisait toujours, « J'ai cru, lui dit-il, que vous m'aviez promis un moment d'entretien avec vous. »« Oui, mais j'ai cru, moi, que vous étiez libre de tout engagement. »« Je le suis, mon cœur seul est engagé. »« Ignore-t-elle encore sa conquête ?»« Absolument, elle ne peut pas même s'en douter. »« Eh bien, Edgar, dit le docteur avec force, Edgar, écoutez-moi, gardez-vous de vous déclarer, ne faites aucune ouverture à ses parents. » N'excitez en elle aucune espérance. Qu'aucun bruit public ne révèle au monde votre passion jusqu'à ce que son cœur vous soit mieux connu. Edgar tressaillit à ces mots et s'écria d'un ton fort ému. Que voulez-vous dire, mon cher docteur? Soupçonnez-vous que quelque engagement antérieur, quelque engagement secret... Je ne soupçonne rien, je ne la connais pas. Ce n'est pas seulement de ses affections, c'est aussi des qualités de son cœur que je veux parler. Il est aisé de feindre, d'affecter des vertus qu'on n'a pas, et je ne veux pas que vous soyez trompé. Sous ce rapport, dit Edgar avec fermeté, je suis sa caution, je la connais bien. Je la connais depuis son enfance, et il est impossible que je sois trompé. Je ne crains rien, je connais avec certitude sa bonté, sa franchise, son désintéressement. Il fit alors un récit détaillé de la noblesse de ses sentiments et de sa conduite lorsqu'elle n'était encore âgée que de 9 ans, opposée à la conduite peu généreuse d'Indiana à cet âge. Le docteur écouta ce récit avec attention et avec plaisir, mais sans cet air de pleine conviction auquel Edgar s'attendait. « Tout cela, dit-il, est du plus heureux présage et me confirme dans l'opinion que vous avez tout à espérer. » Et cependant, reprit Edgar d'un ton un peu chagrin, il semble que vous conserviez quelque arrière-pensée et votre approbation n'est pas entière. Je n'ai aucune objection à faire contre votre choix. Vous m'inquiétez, docteur. Je ne sais ni quelles sont vos objections, ni quelles sont vos idées, ni ce que vous proposez. Tout ce que je propose, dit le docteur, se réduit à 2 points principaux. Premièrement, que vous ne donniez à vos intentions aucun commencement d'exécution avant de vous être positivement assuré qu'elle possède réellement toutes les vertus dont elle a l'apparence. Deuxièmement, que si le résultat de votre examen est pleinement satisfaisant, vous ne vous déclariez qu'après vous être convaincu de son affection pour vous. Mon cher docteur, s'écria Edgar en souriant, de quelles alarmantes conjectures votre explication vient de me soulager. Écoutez-moi donc à votre tour, et j'espère détruire si complètement vos objections que vous-même conviendrez que je puisse, sans inconvénient, parler dès ce soir même à M. Tyrold. Quant à votre premier article, ses vertus, je vous ai déjà rapporté toutes les particularités de son enfance qui, dès lors, annonçaient la rectitude de ses idées. Je l'ai perdu de vue, à la vérité, pendant les quelques années qu'a duré notre voyage. Mais je sais qu'elle est toujours restée sous la surveillance immédiate de la plus respectable des femmes. Depuis 3 semaines que j'habite avec elle sous le même toit, j'ai vu qu'il était impossible d'être plus aimable, plus douce, plus généreuse. Sur ce point, il ne peut donc rester aucune incertitude. Je suis intimement convaincue de son mérite. Quant à votre second article, j'avoue qu'il m'embarrasse un peu. Cependant, comment puis-je m'assurer de son affection pour moi avant de lui faire connaître que j'en ai pour elle ? Un moment, reprit le docteur, vous allez trop vite. Ma première difficulté n'est pas encore levée, et déjà vous courez à la seconde. Il est vrai que cette jeune personne paraît réunir en elle toutes les perfections. Si elle ne devait être, relativement à vous, qu'une simple connaissance ou même une amie, ce que vous connaissez de son esprit et de son cœur suffit sans doute pour former sans crainte avec elle une liaison de société. Mais puisque c'est dans l'espace de quelques heures que vous avez pris une résolution qui doit lui soumettre le destin de votre vie, vous devez à présent l'étudier avec des yeux nouveaux, l'écouter avec une attention et des pensées nouvelles. À chacune des actions de Miss Camilla, vous devez vous faire cette question. Cette conduite me plairait-elle si elle était ma femme ? À chacune de ces paroles, même question. Rien ne doit vous échapper. Vous devez la voir comme si vous ne l'aviez encore jamais vue. Vous devez oublier totalement Camilla Tyrold pour ne songer qu'à Camilla Mandelbert. Vous ne devez pas même vous contenter, en ce qui la concerne, durant ce période d'épreuve, des résultats d'une justice exacte et impartiale. Au lieu de vous demander ce que je vois en elle est-il conforme à la droiture et à la raison, vous devez vous demander simplement « Cela me plairait-il ?» Vous craignez donc que quelques différences de caractère ne puissent être préjudiciables à notre bonheur futur ? De caractère, non. Vous la connaissez depuis longtemps et votre opinion doit être fixée sur cet article, le premier et le plus important de tous. Je ne doute pas de son mérite sous le point de vue général. Mais si l'estime repose entièrement sur le caractère, le bonheur n'est jamais fondé que sur la conformité d'humeur. Vous me faites plaisir, docteur, en prononçant ce mot, car je puis vous fournir l'assurance la moins équivoque de sa douceur, de sa simplicité, de sa bienfaisance, qualités auxquelles je dois ajouter une vivacité toujours aimable, une gaieté que n'obscurcit jamais le plus léger nuage. Je sais, mon cher Mandelbert, que la nature vous a doué d'un esprit pénétrant, subtil et parfaitement propre aux observations, ce qui, dans vos relations générales avec la société, garantira tout à la fois votre jugement et vos affections des pièges ordinaires auxquels la jeunesse est exposée. Mais ici, ce n'est point assez d'être exact jusqu'au scrupule. Pour éviter tout danger de repentir, vous devez devenir méfiant. Méfiant, docteur, jamais. J'aimerais mieux renoncer à tout espoir de bonheur que de m'abaisser à ce rôle humiliant lorsque je suis intimement convaincu de la réalité de ses vertus. Ainsi, sur cette première objection, toute discussion ultérieure devient superflue. Quant à votre seconde difficulté, que je dois avant tout m'assurer de son affection, j'avoue qu'elle a fait naître dans mon âme une crainte qui la pénètre jusque dans ses plus secrets replis. « Oh, docteur, puis-je espérer que, par une détermination libre, ce cœur si doux, si ingénu ?»« Et pourquoi non ?» dit le docteur en souriant. « Tandis que vous rendez si libéralement justice aux autres, n'apprendriez-vous pas à vous apprécier vous-même ?» Un regard de joie et de plaisir porta au docteur les remerciements de son élève. « Je ne crains pas de vous rendre vain. Je vous sais un jugement trop solide pour appréhender que vous puissiez jamais, à l'exemple des esprits futiles, vous enorgueillir des dons de la nature ou de ceux de la fortune. Je ne fais donc pas de difficulté de vous dire que vous avez peu à craindre d'être rebuté en quelque lieu que vous vous présentiez. Vous êtes aimable et poli, votre fortune est considérable, vous jouissez d'une belle réputation. Quant à votre personne, à vos manières, vous êtes partout de mise. Vous ne pouvez pas douter que les parents de Camilla ne reçoivent vos propositions avec joie. Vous ne devez pas craindre non plus que Camilla elle-même s'oppose sérieusement à cette union. Cependant, vous me permettrez d'ajouter qu'il serait possible qu'avec tout cela, vous lui fussiez parfaitement indifférent. S'il en était ainsi, dit Edgar en balbutiant et d'un air fort triste, je suis persuadé qu'elle me laisserait plutôt maître de moi-même. Elle a l'âme trop noble pour consentir, d'après des motifs sordides. Ne vous y fiez pas. L'influence des parents, la force de l'exemple, les premières notions dont on remplit la tête des jeunes filles, et d'après lesquelles elles s'accoutument de bonne heure à regarder un bon établissement comme le principal objet qu'elles doivent avoir en vue, tous ces motifs ne sont que trop communément suffisants pour les déterminer au mariage. Il est vrai, dit Edgar d'un air pensif et inquiet, que le choix de Camilla pourrait n'être pas totalement exempt d'influence. Je ne doute pas que les voix de ses parents ne fussent toutes en ma faveur. Oui, répliqua le docteur Marchmont, et quelque désintéressement qu'on puisse lui supposer, Byshe Park sera aussi en votre faveur. Votre maison, votre équipage, vos domestiques et votre table même seront aussi en votre faveur. Docteur, dit Edgar en l'interrompant à son tour, je sais que vous avez mauvaise opinion des femmes. Cela ne diminue en rien la force de mes observations. Je n'ai pas sujet d'en avoir une opinion qui leur soit très favorable. Cependant, je pense qu'ils en trouvent qui méritent beaucoup de considération. Mais retenez ceci d'après mon expérience. Quelles que soient les raisons qui vous garantissent la réalité des vertus et des bonnes qualités de Camilla, mettez-les à l'épreuve avant de les croire inaltérables. Et quelles que soient vos prétentions à sa main, ne vous exposez pas au danger de l'obtenir sans son cœur. Rempli de défiance de lui-même et de ses moyens de plaire, défiance qui relevait encore à ses yeux Camilla et ne faisait que le confirmer dans l'opinion qu'il avait conçue de sa générosité, frappé jusqu'au fond de l'âme de la crainte d'échouer dans le projet de gagner son affection, blessé dans son honneur et dans sa délicatesse par l'idée seule de ne devoir sa femme qu'à sa fortune, Mandelbert promit alors, sans difficulté, de ne point agir avec précipitation. Il avait perdu toute confiance, ses sentiments osaient à peine s'élever. Un nuage sombre obscurcissait toutes ses espérances. Une incertitude douloureuse pesait sur son âme. Après avoir serré la main du docteur, l'avoir assuré qu'il réfléchirait mûrement sur ce qu'il avait dit et qu'il ne ferait aucune démarche sans l'avoir consulté, il remonta à cheval et retourna fort lentement à Clèves. Fin du tome 1er.